CFM.
CFM.
À qui le tour?
17h30, 19h.
CFM.
À qui le tour du rock, de l'info, des cadeaux, mais ça sera tout à l'heure. D'abord, émission spéciale élection régionale. Kader Youb est ici dans nos studios. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Et reçoit aujourd'hui Dominique Régnier pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Dominique Régnier, liste des Républicains, UDI et Modem.
Bonsoir Dominique Régnier.
Bonsoir monsieur.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur CFM Radio. Vous êtes, je le précise pour nos auditeurs, en direct de Tarbes, c'est ça?
Oui.
C'est ça. Comment, Dominique Régnier, ne pas débuter notre entretien par les attentats, ces événements perpétrés à Paris vendredi soir dernier, ces terribles massacres? Vous avez d'ailleurs mis, à l'instar de tous vos concurrents, votre campagne entre parenthèses. Comment avez-vous appréhendé ces événements? Est-ce que vous redoutiez, vous, des attentats à Paris, en France?
Moi, je le redoutais avec une raison très simple, hein, et peut-être que chacun de nos auditeurs a eu le même sentiment que moi j'avais, à savoir que des attentats, nous en avons déjà vécu. Le dernier en date, le plus spectaculaire, le plus tragique, c'était à Paris entre les 7, 8 et 9 janvier, avec 17 morts. Parmi les personnes attaquées, et puis parce qu'on a tous en tête les attentats qui n'ont pas réussi, enfin pas tous, mais ceux dont on a eu connaissance, en tout cas, dont le fameux attentat raté dans le Thalys. Et donc on pouvait se dire, sans être un spécialiste, qu'à un moment donné, un attentat comme ça allait réussir. C'est ce qui s'est passé malheureusement. Je le redoutais beaucoup, moi, hein, et je le redoutais comme une menace imminente, parce qu'il y a vraiment des réseaux qui sont actifs, puissants, on le sait, avec des moyens militaires, et on l'a vu malheureusement.
On va rester sur ce sujet, et je vous pose la question plus au politologue que vous êtes, ou que vous étiez, plus qu'à l'homme politique. Est-ce que, d'après vous, l'unité nationale va se poursuivre? On l'a vu à l'Assemblée nationale, sitôt le discours prononcé par le président de la République, beaucoup de voix dissonantes, et notamment celle de votre chef de file national, le président des Républicains, Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il n'était pas temps de donner un autre spectacle à la France et au monde même?
Alors, il y a deux dimensions dans ce que vous dites. Il y a la question de l'unité nationale, de l'union nationale, et de dire tous ensemble que notre pays est cher à notre cœur, que nous l'aimons beaucoup et que nous voulons le protéger. Et ça, je crois que nous sommes tous capables de le dire, et s'il le faut, ensemble.
Tout le monde l'a dit d'ailleurs, oui.
Hein, je pense que là, on a tous le désir, et on le fait d'ailleurs, chacun à sa manière. Hein. Ça peut même se faire parfois en éprouvant beaucoup d'émotions face à ce que nous vivons ensemble. Hein. Moi, je n'ai pas senti autre chose de tous mes compatriotes rencontrés depuis que ça s'est produit. Je n'ai pas senti autre chose que de l'union nationale et une espèce de peine commune, de douleur commune et de volonté commune d'en sortir.
Non, je parlais pas de la peine qui est légitime et qui a été ressentie et qui a traversé toutes les sensibilités politiques. Je parle plus de l'aspect politique, de l'aspect action. Que faisons-nous après? Vous souhaitiez d'ailleurs, il y a Dominique Régnier, pardon. Vous souhaitiez, il y a quelque temps, une révision de la loi de finances en faveur d'un renforcement des forces de police, du renseignement, de l'armée, des durcissements de la politique pénale. Vous avez été entendu. Est-ce que les mesures, par exemple, d'urgence prises par le président et par le gouvernement, vous satisfont-elles?
Oui. Alors, mais juste là-dessus, moi, je faisais la distinction avec vous. Voyez, cette union nationale, moi, je pense qu'on la vit. Après, chacun comprendra que parmi les valeurs qui sont les nôtres, il y a la liberté, il y a la démocratie. C'est aussi pour ça qu'on a été attaqué. Et donc, il faut qu'on garde le droit d'interroger ceux qui nous gouvernent sur ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils n'ont pas bien fait, parce que peut-être qu'il y a aussi des erreurs qui ont été commises et qu'il faut, de ce point de vue-là, les entendre. Ça n'est pas remettre en cause l'Union nationale que d'interroger le gouvernement et même de le critiquer. C'est au contraire, c'est faire vivre nos valeurs de démocratie et de discussion et de liberté de commentaires. Après, moi, les mesures qui sont prises, je les trouve globalement satisfaisantes. Mon sentiment, c'est que nous aurions dû les prendre après ce qu'on appelle Charlie, quoi, hein, les massacres des 7, 8 et 9 janvier. Je suis un peu étonné qu'on ait attendu tout ce temps pour prendre des mesures qui aujourd'hui apparaissent comme évidentes. Mais entre-temps, il y a eu 130 morts de plus.
Est-ce que c'est une faute, justement? Est-ce que c'est une faute du gouvernement d'avoir pris autant de temps pour prendre des mesures?
Moi, je serais prudent, mais je dirais qu'en attendant les explications du gouvernement sur ce retard, on peut penser qu'il y a une question à poser. Ce que moi, je ferais, vous savez que je ne suis pas député, je n'ai pas de mandat. Et tout à l'heure, vous faisiez référence à mon métier de politologue. Je le poursuis parce que c'est mon métier, c'est de ça que je vis, moi. Je suis professeur à Sciences Po et c'est mon métier, donc je n'ai pas d'autres ressources. Et donc, je suis toujours là-dedans. Et moi, si vous voulez, je me dis, donnez-nous des explications sur le temps, sur le fait que ces mesures n'ont pas été prises alors que, après Charlie, franchement, moi, je vais vous dire honnêtement, je pensais que des dispositifs efficaces avaient été mis en place. Et là, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était pas le cas puisqu'on vient de les décider maintenant. Donc, là, il y a une réponse à avoir. Ce serait pas, si vous voulez, urgent et grave s'il n'y avait pas tous ces morts. Et toutes ces personnes qui ont perdu un proche, je suis sûr qu'elles vont vouloir des explications et on doit les poser pour éviter que ça recommence précisément.
Vous disiez, y compris dans votre camp, que la gauche avait un problème avec la sécurité, que cela ne faisait pas partie de son corpus idéologique, pour reprendre vos termes. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous sentez une évolution dans son analyse?
Il y a une nette évolution qui d'ailleurs avait commencé, pour celles et ceux qui nous écoutent s'en souviennent peut-être en partie, ben ça dépend des générations, mais ça avait commencé en son temps, moi je me souviens bien, avec Jean-Pierre Chevènement, qui avait été, qui appartenait quand même à la gauche, et qui avait été, comme ministre de l'Intérieur, le premier à porter au sein d'un gouvernement de gauche un discours, on va dire, réaliste et républicain sur la sécurité. Puis après, Lionel Jospin, moi je m'en souviens, avait dit que la sécurité était un principe républicain et qu'il ne fallait pas avoir avec ce service public que l'on doit à nos concitoyens de rien de quelconque. Mais ça s'est toujours un peu dilué et il y a eu des difficultés. Manuel Valls a été un Premier ministre qui a mis en avant l'affirmation d'une gauche à l'aise avec la sécurité. Bon. Donc, ça a quand même changé beaucoup tout ça. Et aujourd'hui, on le voit dans les mesures préconisées prises par le président François Hollande et assumées par son Premier ministre Manuel Valls. On voit un tournant fort de la gauche qui va, de ce point de vue-là, renouer alors avec une histoire un peu plus ancienne, parce que si on voulait être un peu plus professoral, justement, si je puis dire, on a dans le passé une gauche qui a été beaucoup plus sécuritaire qu'elle ne l'est depuis mai 68. En gros, la coupure, si vous voulez, c'est mai 68.
Que faut-il faire pour changer cette situation, pour éviter que des jeunes français, européens s'engagent, aillent faire le djihad? D'après vous, quels sont les changements radicaux à mettre en place dans la société?
Écoutez, moi je pense que il y a deux volets sur lesquels il faut agir. Il y a un volet répressif. Il faut que nous soyons plus répressifs. Ça n'est pas vouloir le mal des personnes que de dire ça, c'est vouloir le bien de notre société et la sécurité des plus faibles, évidemment. Il n'y aura pas de malentendu là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut circonscrire, voire enfermer des personnes qui sont dangereuses, qui peuvent nourrir des projets meurtrier. Ça me paraît être l'évidence, et peut-être que nous sommes, depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 2012, nous sommes laxistes depuis très longtemps, nous ne savons plus très bien comment faire avec des personnalités qui sont manifestement dangereuses. Donc on a un volet répressif qui est à durcir fortement. On a ensuite un volet préventif qui est à renforcer considérablement. Je vais vous dire deux directions, dont une qui me paraît quand même devoir être réexaminée. Mais la première direction, c'est évidemment la mobilisation de l'école, et c'est le prof qui vous dit ça, de l'école dans son ensemble, qui doit se concentrer. L'école enseigne beaucoup de choses aujourd'hui, mais elle doit se concentrer quand même sur ces éléments qui sont absolument vitaux, que sont le respect des valeurs de la République, le respect du prochain et la séparation entre des bien sûr entre des la dimension religieuse et la dimension civile de la vie. Mais il y a un autre aspect qui est un débat peut-être qu'il faudra rouvrir. Alors je le dis honnêtement en sachant que c'est un grand sujet, mais je crois qu'en 1995-96, lorsque le service militaire a été supprimé, je crois qu'on n'en a pas mesuré à l'époque, ça a été supprimé sans doute pour des raisons de bonne volonté, mais on n'a pas mesuré à l'époque à quel point les conséquences pouvaient être néfastes, et il est peut-être aujourd'hui utile de revenir sur ce sujet-là et d'en débattre ensemble pour savoir si nous n'avons pas besoin de réintroduire un service militaire qui comprendrait deux volets. Un volet en un semestre, 6 mois, qui serait un service civil, où au fond, nous pourrions, jeunes filles et jeunes garçons, bien sûr, nous pourrions accomplir beaucoup de services utiles à notre société, que ce soit la protection, la surveillance des seniors, des enfants, l'entretien de sites qui sont menacés, ou même l'assistance à des personnes fragiles ou à mobilité réduite, il y a beaucoup à faire, ou même la protection de l'environnement, ou les incendies d'été, et puis un volet qui serait pour un semestre plus militaire, où là, on réapprendrait le métier des armes au service de sa patrie et des valeurs qui sont les nôtres, et des couleurs du drapeau. Je crois que là, quelque chose, malgré tout, se formait dans ce creuset où nous nous retrouvions tous, quelles que soient les classes sociales et les conditions, pour former à la sortie une communauté. Alors, c'était réservé aux garçons, c'est sans doute là-dessus qu'il faudra revenir, mais je me demande si ce n'est pas un sujet sur lequel on aurait intérêt tous ensemble à réfléchir à nouveau.
Dominique Régnier, Kaderiou, on marque une courte pause dans notre rendez-vous politique. À tout de suite.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Le grand rendez-vous annuel du Salon des vins et produits régionaux de Moissac, organisé par les amis de l'île au Caillavé, c'est au Hall de Paris les 21 et 22 novembre. Préparez vos papilles, venez déguster les fabuleux vins et produits de nos régions. Toute la journée, des animations et de nombreux lots offerts par les producteurs sont à gagner. Le 16e Salon des vins et produits régionaux de Moissac, ambiance garantie les 21 et 22 novembre, entrée gratuite de 9h à 19h. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Échange de balles et partage d'émotions. Le comité de tennis de table de l'Aveyron organise le 28 et 29 novembre le championnat régional et départemental par équipe et le challenge jeune du conseil départemental. Challenge ouvert aux handicapés et aux 6-18 ans. Inscription avant le 27 sur cdping12.clubeo.com. Vivez un week-end au cœur du ping à l'amphithéâtre de Rodez de 10h à 19h. Entrée gratuite avec cdping12. Le ping, c'est de la balle.
Faire vos courses en grande surface un dimanche matin? C'est possible. Un boucher à votre disposition un dimanche matin? C'est possible. Une carte de fidélité U avec encore plus d'avantages? C'est possible. Dans votre magasin U Express de Villeneuve d'Aveyron, tout est possible.
Et oui, à 5 minutes de Villefranche, U Express est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30. Proximité, fidélité, U Express de Villeneuve, une équipe jeune et dynamique dans votre chariot.
Dans le cadre du festival Lettres d'automne, la communauté de communes du Quercy-Caussadet et l'association Confluence vous invitent à une lecture par Agnès de Sarthe de son roman Le Remplaçant. Elle sera accompagnée par Émilie Véronèse qui interprétera au piano les danses hongroises de Béla Bartok. Une rencontre avec Agnès de Sarthe se poursuivra autour d'un verre de l'amitié. Cette soirée libre et gratuite se déroulera jeudi 26 novembre à 21h à la salle de la pyramide de Molière. Venez nombreux.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
La suite du rendez-vous politique avec en studio ici Kader Youb et par téléphone en direct de Tarbes, Dominique Régnier, tête de liste pour les régionales, pour les Républicains, l'UDI, le Modem.
Dominique Régnier, pour évacuer une question qui a agité le microcosme politique ou journalistique, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, 18 novembre, qu'il n'y aura aucun risque à ce que votre éligibilité sur Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées sera remise en question ou en cause?
Bien sûr que non, mais ce qui est triste et injuste pour ce qui me concerne, c'est que je le sais depuis toujours, puisque c'est très simple de le vérifier, le code électoral est très clair.
Non, je veux vraiment pas rentrer dans les détails, je voulais juste savoir si...
ce que je veux dire, c'est que j'ai été victime d'une attaque politicienne de la part d'un concurrent, puisqu'il est sur les listes de M. Sorel, celui qui m'attaque. Il est donc divers.
On peut le citer, hein, c'est M. Grand, c'est ça?
Ouais,
le sénateur Grand.
Il est candidat sur la liste de M. Sorel, donc est un concurrent. Et c'est une attaque qui est une calomnie, mais qui m'a blessé, qui m'a exposé. Il n'y a jamais eu aucun fondement. C'est une attaque calomnieuse. Et c'est vraiment, je regrette, moi, que cette attaque calomnieuse, vous savez comment c'est, hein, calomnier, il en restera toujours quelque chose, dit le dicton. Et c'est vrai, parce que ça m'a obligé à expliquer à diverses reprises qu'il n'y avait aucun risque. Ma liste a été déposée, validée par la préfecture. Donc ça, c'est officiellement terminé tout ça, vous voyez.
Dominique Reynier, attaque politicienne, comme des sournoiseries de ce genre-là, vous qui êtes politologue, vous connaissez ça par cœur. Et est-ce que justement de bien connaître le système politique, ça donne envie de le fuir ou ça donne envie d'y rentrer ?
Ça donne envie de le changer. Et c'est ça mon intention. Moi, je suis candidat à deux choses, si vous voulez. Je veux accéder à la présidence du conseil régional pour fonder avec mes compatriotes une région prospère, généreuse et fière, puisque c'est le programme que je me suis fixé si l'on me fait confiance. Mais je veux aussi le faire en essayant de contribuer. Alors, il faut être modeste, mais il faut se donner un objectif. Il faut contribuer à ce que la politique soit plus belle, plus noble. Moi, j'avance sincèrement. C'est-à-dire que j'avais une vie plus douce que celle que j'ai aujourd'hui, mais ça je le savais. La politique va mal. Les petits comportements de ce type, politiciens, mesquins, méchants, font beaucoup de mal à la politique. Si on avait la croissance et pas de chômage, et pas de dette, je dirais, bon, voilà, c'est un sport pour ceux que ça amuse, et c'est pas mon cas. Mais nous avons un chômage qui n'a jamais été aussi élevé, nous avons une dette catastrophique, nous n'avons pas de croissance, ça devient très grave, et chacun le sait autour de lui, et parfois est touché lui-même. Parmi ceux qui nous écoutent, des gens sont touchés eux-mêmes. Il n'y a pas de quoi faire de la politique politicienne. Il faut s'occuper vraiment de notre pays, de notre région, le faire à cœur, sérieusement, sincèrement. Et c'est ça que moi je voudrais montrer avec d'autres qui le veulent comme moi. Il est possible de faire de la politique proprement. C'est pour ça que moi je me suis engagé, hein. C'est pour ça. Je crois que c'est possible. Je sais que la politique c'est pas ça, ou pas que ça. Faut pas généraliser d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui sont très très bien, et qui font ce qu'ils peuvent avec vocation.
Alors vous dénoncez dans vos réunions publiques, dans votre campagne, systématiquement l'état financier de nos collectivités. Lorsqu'on regarde votre programme en matière de transport, d'économie ou de santé, on va s'y arrêter justement sur la santé. Vous le savez, dans les territoires ruraux, obtenir un rendez-vous avec un médecin, c'est parfois compliqué. Se rendre à l'hôpital également. Comment faire, Dominique Reynier, pour remédier à cette fracture médicale? La région en a les moyens, en tout cas. Vous critiquez d'ailleurs les maisons de santé pluridisciplinaires et à la place, vous voulez créer des pôles multiservices de proximité. Quelle est la différence? Est-ce que ce n'est pas que le nom, un changement de nom, un changement d'appellation?
Non, mais moi, je critique pas les maisons de santé. Moi, je veux qu'il y en ait 5 de plus par département. C'est l'objectif que nous sommes fixés dans le projet qui est en ligne.
Oui, mais vous dites qu'elles ont été créées plutôt à des endroits moins stratégiques où il y avait déjà des médecins. Enfin, hein, c'est à peu près ça.
Pour en ajouter. C'est pour ça que moi, je veux en créer d'autres. Si vous voulez, comme vous l'avez très bien résumé, chacun le sait qui nous écoute, une de nos difficultés aujourd'hui en dehors des grandes métropoles ou des villes d'importance moyenne, on n'arrive pas à être soigné comme on le veut. Et à ça, il y a plusieurs réponses à faire. Il y a la création de nouvelles maisons multiservices. Alors, parce que moi, je voudrais proposer à nos concitoyens de pouvoir être soignés dans des maisons qui, étant plus nombreuses, seraient disposées géographiquement de telle sorte que chacun serait moins loin de ces maisons, pour réduire la distance. Ensuite, avoir une offre de services médicaux, alors moi je ne suis pas médecin, mais une offre de services, de spécialités au pluriel, correspondant à nos besoins et à partir desquels on pourrait planifier des rendez-vous via une plateforme, parce qu'on sait qu'il y a peu de médecins et on voudrait organiser la présence de médecins spécialistes en fonction de ces rendez-vous. Ensuite, il y a dans ces maisons ou ces centres, je voudrais qu'il y ait aussi un minimum de services publics. qu'à côté, on puisse avoir un service postal ou interroger même l'administration fiscale si nécessaire, avoir quelqu'un qui peut répondre. Et même si on arrive à faire cela, ce serait parfait, un commerce généraliste qui peut nous dépanner sur quelques points clés. Comme on le sait, on en a aujourd'hui beaucoup besoin dans beaucoup de points de notre territoire. Je rappelle que les trois quarts d'entre nous n'habitons ni Toulouse ni Montpellier, et que plus on détaille notre population et sa distribution, plus on voit qu'elle est quand même très dispersée. Mais c'est ainsi que nous vivons. On est heureux de vivre comme ça. Et puis, je veux dire aussi que répondre à l'accès à la santé, c'est aussi le projet routier que je porte.
Et justement, oui.
Vous voyez, rééquilibrer la politique des transports en faveur de la route, pour moi, c'est aussi pouvoir être soigné, recevoir les soins quand il y en a besoin.
C'est pas contre l'air du temps, c'est pas à rebours. Vous n'êtes pas à rebours de l'évolution de la société où on va plutôt vers moins de voitures, moins d'émissions de CO2 que de vouloir
Comment se place s'il n'y a pas de voiture ?
Pardon ?
Comment on fait pour
pas de voiture, c'est impossible. Mais vous dénoncez le plan tout rail des socialistes. Est-ce que c'est pas un chiffon que vous agitez alors que vous savez très bien que pour fluidifier, pour désenclaver un territoire, le rail est la solution la moins polluante.
Mais le problème.
La moins génératrice d'embouteillage aussi.
Nous ne sommes que 6% à prendre le train pour aller au travail dans notre grande région. 6% seulement. Nous prenons tous la voiture, massivement, parce qu'il n'y aura jamais assez de trains, il n'y aura jamais assez de rails, ni de trains. Le rail coûte des milliards et il n'y en aura jamais assez. Et regardez, on ne sait même pas maintenir les lignes qui sont les lignes comme Montrégeau-Luchon. On essaie de se battre pour ne pas les fermer. On ferme des lignes aujourd'hui, vous vous rendez compte ? Quand je dis la route, c'est parce que la route, et vous avez tous, vous êtes venus à votre travail en voiture ce matin, c'est sûr. Mmh. Et tous ceux qui nous écoutent, en fait, ils ont aujourd'hui pris leur voiture. Quelques-uns le train, mais la plupart, alors presque toutes leurs voitures. Quand on regarde la carte des transports de notre région, vous avez une extraordinaire carte routière et des lignes ferroviaires, mais qui sont incomparablement moins nombreuses. On ne pourra jamais remplacer les routes par le train. Ça veut dire qu'on va devoir renoncer à se déplacer et tous vivre dans les métropoles. Ça, il ne faut pas. Il faut préserver nos territoires et leur équilibre. Donc, il faut la route. Mais quand vous dites, et vous avez raison, qu'il y a un problème de CO2, c'est pour ça que la deuxième partie de ma proposition, dans le projet que nous portons, elle est d'initier le développement d'une filière automobile nouvelle, qui est la voiture propre. Et ça, nous, on peut le faire, parce qu'on a entre Alès, dans le Gard, où vous avez le début d'une filière industrielle de voitures propres. Derby, le pôle Derby, près de Perpignan, où vous avez le photovoltaïque, l'hydrogène à Albi. Si on met ça ensemble et qu'on fait les investissements nécessaires, en comptant sur l'intelligence qui est parmi nous de façon incroyable, puisqu'on a beaucoup d'ingénieurs, etc., dans notre région, et d'innovateurs, on peut mettre en place une filière industrielle qui contribuera à produire les voitures qui ne polluent plus. Elles existent aujourd'hui, ces voitures.
Elles sont très chères, Dominique Ranier. Elles sont très chères.
On arrive à des prix maintenant qui sont ceux de la voiture classique.
Vous aiderez les particuliers qui souhaitent acquérir des voitures électriques ?
Pardonnez-moi, monsieur.
Est-ce que la région aidera les particuliers ?
Oui, on a le projet d'aider. Alors, d'aider de plusieurs façons. Ça peut vous paraître pas assez, hein, mais vous savez que la région a un petit budget en même temps. Hein. Mmh. Mais on souhaiterait aider en exonérant des cartes grises. On souhaiterait aider par des places de parking et de stationnement qui seraient gratuites. Et puis, si vous me permettez, je voudrais quand même porter à la connaissance de ceux qui nous écoutent un chiffre que j'ai fait calculer avec mon équipe et qui n'est pas connu et ça peut être utile de le communiquer. Sur l'ensemble de notre région, je parle de la grande région, l'agglomération Midi-Pyrénées, on a calculé, nous, ce que l'État prélève sur nous comme automobilistes dans notre région, quand on achète de l'essence. L'État prélève sur nous tous, dans notre région, c'est 5 600 000 habitants, chaque année 8 500 millions d'euros. 8 500 millions d'euros chaque année sur les automobilistes de la région. Mmh. Et l'État rétrocède à la région 360 millions d'euros. Il en prélève 8 milliards et demi.
Et vous voulez la moitié ? Vous voudriez la moitié, par exemple ?
Je trouverais franchement que on nous rétrocéderait la moitié. Nous aurions un budget qui serait triple de celui d'aujourd'hui et nous pourrions soutenir massivement
la filière de la voiture propre, qui technologiquement est disponible et permet aujourd'hui d'avoir des voitures qui arrivent à entre 10 000 euros, 9 000 euros. On pourrait aider à l'achat de voitures, les développer. Toutes les administrations seront équipées. De toute façon, ça, j'en prends l'engagement, moi. L'administration régionale sera équipée de voitures propres. Sans exception.
Dominique Régnier, il nous reste 3 minutes, pour dire que effectivement, si l'État aussi prend autant d'argent, c'est pour pouvoir aussi peut-être le redistribuer de façon égalitaire sur l'ensemble du territoire français.
Ah ben on a besoin, nous. On a, vous savez bien que dans la grande région, monsieur, on a 4 départements qui comptent parmi les 10 plus pauvres de France. Quatre départements qui comptent parmi les 10 plus pauvres de France sont chez nous. On a 13% de chômeurs chez nous. On a grandement besoin de cet argent. Si c'est pour faire, si c'est pour l'utiliser au profit des plus défavorisés, qu'on nous le donne. Nous, on a grand besoin de ça. Il nous faut trouver la réponse. Vous savez, les jeunes chez nous qui ont un taux de chômage, qui sont confrontés à un taux de chômage massif, on doit les aider par des contrats en formation. Le taux de chômage à Montpellier est de 20%. C'est colossal. On a vraiment besoin d'aider nos jeunes générations et tous les chômeurs de chez nous. C'est ici que cet argent est utile. S'il faut le redistribuer au profit de ceux qui en ont besoin, nous en avons besoin.
Dominique Régnier, merci de faire des réponses courtes maintenant, parce qu'il nous reste exactement 1 minute 45.
Oui, Dominique Régnier, notre région possède une industrie de pointe dans le secteur aéronautique, des entrées maritimes, des universités parmi les plus attractives, une agriculture, notamment la viticulture, parmi les plus importantes en France. Que dire du tourisme? Tous ces secteurs ont été développés sous mandature de gauche, ici en Midi-Pyrénées, mais aussi en Languedoc-Roussillon. Est-ce que tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans ces domaines trouve grâce à vos yeux? Et que souhaitez-vous faire pour amplifier ça? Quelle est la différence fondamentale, par exemple, entre une mandature de gauche et une de droite, celle que vous voulez, que vous souhaitez incarner?
Ah, mais moi, j'ai un désaccord là, fondamental avec cette analyse. Je ne crois pas du tout qu'Airbus doive son succès au Conseil régional. Hein. Airbus doit son succès à Airbus, à ses ingénieurs, à ses exportateurs, à ses ouvriers.
Certes. Hein. Mais ce qui marche aujourd'hui a été fait sous mandature de gauche. Qu'est-ce qui fait que, ayant les rênes de la région, les choses iraient plus mieux avec vous?
Après chacun fait son évaluation. Pour moi, Airbus fonctionne parce qu'il y a des ouvriers, des ingénieurs qui travaillent.
C'est pas une évaluation, Dominique Régnier. Je vous demande juste savoir quelle serait la plus-value avec.
C'est quand même comme ça que je suis obligé de vous répondre. C'est pas l'agriculture que fait marcher le Conseil régional.
Bien
si
sûr.
Le Conseil régional était plus efficace, et s'il était à la hauteur de la tâche qu'il lui demandait, il investirait pour créer de l'emploi et créer de la ressource. Ce qu'il ne fait pas, c'est une gestion que moi j'ai qualifiée de pépère et de clientéliste. Beaucoup d'argent a été investi dans le rail. Malheureusement, ça n'est pas à la hauteur des attentes en matière de transport. Et trop peu d'argent a été investi pour lutter contre le chômage. D'ailleurs, le résultat, c'est qu'on a un chômage qui n'a jamais été aussi élevé. 13%, ça n'a jamais été aussi élevé dans notre région. C'est quand même dramatique. On n'a pas assez investi, pas créé d'entreprises ou aidé au développement des entreprises qui existent.
Merci. Merci beaucoup, Dominique Régnier, d'avoir été en ligne avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
C'était dans le cadre des émissions spéciales pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Dominique Régnier, tête de liste des Républicains UDI Modem, en direct par téléphone depuis la ville de Tarbes. Merci Kader, prochain rendez-vous
lundi pour le grand débat.
Lundi, un grand débat qui réunira dans les studios de CFM les têtes de liste
départementales. L'ensemble des listes, enfin une partie, puisque oui, il y a 11 listes, on ne pouvait pas faire rentrer donc 11 personnes dans les studios. Il y aura donc 6 têtes de liste, têtes de liste du PS, il faut les citer.
Oui, allons-y. Ouais,
Sylvia Pinel, Thierry Deville, Serge Rogour, Morgane Langlais, Thierry Vialon. J'en oublie certainement.
Enfin, ils seront là pour débattre.
Oui, Rosevelet-Cambon.
Voilà. Et on les annoncera sur notre antenne. Ils seront là de 17h30 à 18h30 lundi à la place de l'équipe de Lundi Sport. Mais peut-être qu'il y aura du sport.
Certainement. Du coup. Ouais. Merci à tous.
Vous écoutez CFM, il est 18h01. On va se retrouver pour la suite de votre mag régional juste après les infos. À de suite.
CFM.
Il est 18h, il vous tape.